Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche sur RMC de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux de vous retrouver tous les week-ends avec les grandes gueules, avec les champions. Aujourd'hui, Pascal Duprat, Julien Beneteau, Marc Madio, Simon Dutin. Dans quelques instants, le bras de fer des GG autour de la Coupe du Monde des clubs après une semaine de compétition. Ce nouveau tournoi vous emballe-t-il ? 10h30, le dossier des GG, le forfait d'Arthur Fils pour Wimbledon. Le numéro 1 français de 21 ans connaît des blessures à répétition depuis son enfance. Est-ce déjà inquiétant pour la suite de sa carrière ? On vous donnera toutes les dernières informations. Et puis 10h45, les GG contre-attaque. Mes grandes gueules, vous prenez les commandes de cette émission. Vous nous proposez un sujet soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Quelques secondes pour donner envie à tous les auditeurs de voter pour vous. Pascal Duprat.
Eh bien moi, j'aimerais vous parler du retour de la vasque dans le ciel parisien. Vous savez, la vasque des Jeux Olympiques. Voilà pas qu'elle est donc de retour. Donc, à votre avis, les GG, est-ce génial ou too much ?
Génial ou too much ? La vasque olympique est apparue hier soir au Jardin des Tuileries, qui s'est élevée dans le ciel parisien. Magnifique, sublime. Bon, on n'est plus aux Jeux Olympiques, c'est aussi pour ça que nous pose, c'est aussi pour ça que Pascal Duprat pose la question. Ok, vous pouvez aller voter pour Pascal si ça vous intéresse. Marc Madio, pas Flavio Briatore. Hein.
Pas de Flavio Briatore. Du foot, normalement, c'est accrocheur.
Ah. Oh, oui, ça a bien remporté.
J'espère bien l'emporter aujourd'hui. Paul Pogba. On parle beaucoup de son retour en équipe de France. Moi, je rappelle juste qu'il y a une petite différence de traitement médiatique, parce que s'il avait été coureur cycliste, on ne parlerait pas de son retour en équipe de France.
Okay. C'est un édito, c'est ça ?
Voilà.
Édito dopage. Très bien, j'ai compris. Parfait. Pour l'édito dopage, vous votez pour Marc Madio. Je sais que la semaine dernière, Pascal avait proposé ce sujet, puis toi, t'avais mis quelques mines comme ça. T'as mis quelques bûches dans le feu, comme on dit. Donc, tu veux en tout cas en parler. Très bien. Julien Beneteau.
Moi, je vais parler de rugby, parce que c'est dans l'air du temps, et que, il y a l'équipe de France, le 15 de France, remanié, on le sait, mais qui va partir pour une tournée historique. Et normalement, il y en a certains qui disent que c'est la tournée d'une vie quand tu as la chance d'aller jouer en Nouvelle-Zélande au mois de juillet. 3 test match. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette tournée en termes de résultats? Je crois pas à la victoire de la série de tests. Mais est-ce qu'une victoire en terre néo-zélandaise sur un des 3 tests est possible, en sachant qu'on a gagné que 4 fois dans toute l'histoire du rugby?
Ok, voilà. C'est la proposition de Julien Beneteau. Vous pouvez aller voter pour lui sur le compte X des grandes gueules du sport. Non, ne pars pas défaitiste, t'es pas encore en finale, mon cher Julien. Simon Dutin.
Moi, je vais recycler un débat que j'ai eu à l'after cette semaine dans ce studio. On a souligné la cohésion, l'unité, l'homogénéité de l'équipe du Paris Saint-Germain. On dit souvent que c'est Luis Enrique qui est la star de cette équipe. J'ai l'impression que depuis ce qu'il a accompli en deuxième partie de saison, c'est quand même Désiré Doué qui prend toute la lumière. Je le ressens comme ça. Pour moi, c'est devenu le phare de cette équipe, la superstar de cette équipe. Est-ce que les copains le ressentent comme ça?
Ok, donc on est ton tri sélectif, c'est ça?
Oui.
Donc tu fais du recyclage et tout ça, on est quoi? On est la poubelle jaune?
Non, pas du tout, Marc. Je me suis fait énormément d'amis sur le réseau social X, après cette partie.
Si tu vas là-bas pour te faire des amis, c'est sûr
j'ai
que...
J'ai envie de passer la balle et de savoir ce que vous en pensez.
Ok, pour qu'en fait ce soit maintenant au GG de se faire épingler sur X, c'est ça?
Pourquoi pas, plus
okay.
Plus
on rit. Heureusement qu'on fait pas des émissions pour les réseaux sociaux, sinon on serait plus là, les copains. Allez, on va débuter cette nouvelle heure avec un proverbe américain, c'est de circonstance, pour débuter cette deuxième heure qui dit, je connaissais pas celui-là, je trouve pas mal. En voulant sauter jusqu'à la lune, vous pourriez tomber dans la boue.
RMC, le bras de fer GG.
Attention, Jefferson Savarino qui va venir trouver Igor Jesus, il est passé face à William Pacho, balle de but, goal. Igor Jesus qui permet à Botafogo de mener 1-0 face au Paris Saint-Germain.
Lionel Messi, côté
ouvert. Le but exceptionnel de Lionel Messi. Il a choisi le côté ouvert de Claudio Ramos et la patte gauche magique a fait le reste.
C'est terminé, la fin du match, sifflé par Monsieur Tello. Et performance majuscule de la part de cette équipe saoudienne d'Al Hilal qui prend un point aujourd'hui face au grand Real Madrid.
Claudio Ramos! Sergio Ramos, il est venu ici pour disputer cette Coupe du Monde des clubs. Et c'est lui, le taulier, le capitaine, el patron, qui permet au Real de mener 1-0. Sergio Ramos!
Alors, il y a une semaine, dans ce studio, la Coupe du Monde des clubs ne faisait pas recette pour les GG. Pour les GG, overdose de foot, santé des joueurs, compétition trop longue, tournée d'été sans réel enjeu. Bref, ce mondial des clubs New Look était déjà très critiqué. Après une semaine de compétition, je vous propose de faire un premier bilan, savoir si vous êtes entré, vous aussi, dans votre compétition, finalement. Cette Coupe du Monde des clubs vous emballe-t-elle ? Dans le coin gauche, la Team Oui, représentée par Pascal Duprat et Marc Madio. Bravo, vous êtes dans le même camp, on est très heureux, franchement. Ah ouais.
Il manquera plus que Christophe Cessieux, et alors là, le dimanche serait complet.
Ah, puis il serait triste hein, s'ils étaient tous d'accord, je suis bien d'accord avec toi. Dans le coin droit, la Team Non, représentée par Simon Dutin et Julien Beneteau. C'est donc un 2 contre 2. Sachez que, pour l'instant, sur X, on vous a posé la question, consultation habituelle, il n'y a pas débat. C'est 86% non. Donc le camp du oui, vous allez avoir du boulot et vous allez commencer dans une poignée de secondes. Avant de débattre, on va retrouver en direct l'un de nos envoyés spéciaux à Los Angeles. Il est donc 1h12 du matin, c'est bien ça, Arthur Perrault. Bonjour Arthur.
Salut GG, bonjour à tous. Oui, en direct de Seattle et il est bien 1h12.
En direct de Seattle, évidemment, avec 9h de décalage horaire. Je sens que tu vas bien avoir du mal à te remettre de ce décalage horaire, toi qui viens d'arriver aux États-Unis. Alors, tu as quand même pris le pouls hein, de la compétition. Tu es arrivé hier, cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce qu'elle commence à prendre enfin aux États-Unis ?
Ça reste très timide avec un taux d'occupation des stades de 56% pour les 10 premiers matchs. La Coupe du Monde des clubs ne suscite pas vraiment l'engouement populaire. Le journaliste Jeremy Aushan, suiveur du club de Seattle, le constate dans les enceintes américaines.
La fréquentation dans les stades, c'est vraiment des hauts et des bas. Pour le match de l'Atlético, il y avait 50 000 personnes. Pour Botafogo, il y en avait 30 000. Il y a aussi eu un match d'une équipe japonaise avec 12 000 fans. C'est vraiment des hauts et des bas en permanence. Mais il y a quand même des gens qui se prêtent au jeu, même si parfois on aimerait qu'ils soient plus nombreux.
Mais une semaine après le début de la compétition, les grosses écuries européennes et sud-américaines commencent à déplacer les foules lors du match Real Madrid à Al-Hilal, par exemple. 62 400 spectateurs et un Hard Rock Stadium de Miami plein à craquer. Le gardien madrilène Thibaut Courtois est impressionné.
Il y a beaucoup de matchs avec beaucoup de supporters, avec beaucoup d'ambiance, donc ça c'est chouette. Naturellement aussi, il n'y a pas toujours les stades pleins, c'est logique. Les matchs que l'on a joués, et pour jouer ici, que beaucoup de madristas d'Amérique ou d'ici à côté, ils peuvent venir voir les matchs, c'est chouette.
Dans les rues des villes hautes comme ici à Seattle, peu de publicité pour le mondial des clubs, mais les fans sont là, maillot de leur équipe favorite sur les épaules. César et Josué, supporters du Real et de Pachuca, savourent cette première édition à un an de la Coupe du Monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Bueno, Madrid es un club mundial.
Le Real Madrid est un club mondial, que ce soit en Amérique du Sud, en Chine ou encore aux États-Unis. Quand tu es sud-américain, il y a une grande tradition d'aimer le Real Madrid. Ce club aura toujours des supporters du monde entier.
Ce n'est pas facile pour nous de venir, payer le vol, l'hôtel, le billet pour le stade. C'est un peu difficile, mais bon, ça fait longtemps qu'on a organisé, depuis décembre qu'on a le tirage au sort.
Selon la FIFA, environ 1,5 million de billets ont déjà été vendus, mais des clubs peinent encore à attirer du monde pour y remédier. L'instance a lancé des promotions attractives pour certains tickets pour étudiants à seulement $20.
Merci beaucoup Arthur Perrault pour ces précisions. Tu peux rester quelques instants avec nous en direct de Seattle. Le match aura lieu d'ailleurs à Seattle hein, du Paris Saint-Germain demain à 21h. C'est pour ça que RMC est là-bas évidemment. Cette Coupe du Monde des clubs vous emballe-t-elle ? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai deux oui, j'ai deux non. Pour l'instant, en France, avec la consultation GG du Sport, c'est 14% oui seulement. Pascal Duprat, vas-y, essaye de... T'es déjà rentré dans ta compétition,
en fait,
toi.
En fait, la semaine dernière, si tu te souviens bien, moi j'ai dit que j'étais favorable à cette compétition, donc je continue à dire...
T'étais plutôt le seul, oui, exactement.
Je suis favorable, je voudrais dire à Arthur que j'ai pas les mêmes chiffres que lui, parce que j'ai consulté le site de la FIFA. Sur les 8 premiers matchs de poule, c'est 42 500 spectateurs de moyenne. Donc, il y a des matchs à fort contingent de spectateurs et d'autres un peu moins. Mais c'est le lot des premiers tours d'une première compétition qui se déroule aux États-Unis, ce pays où, j'ai presque envie de dire que les médias français, européens ont déjà choisi l'option, c'est nul, on passe à autre chose. Donc on va attendre quand même le deuxième tour, je l'attends patiemment, je découvre que, bien sûr, les équipes sud-américaines sont en meilleure forme puisqu'elles sont en plein championnat, contrairement aux équipes européennes qui sont en bout d'exercice, en bout de saison. Attendons donc ces huitièmes de finale, parce que le niveau, quoi qu'on en dise, le niveau est pas si mal que ça. Et les découvertes sont nombreuses. Le foot américain, il y a quelques clubs qui, ma foi, sont de très 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 bon niveau. Je m'attendais pas, par exemple, à Botafogo à ce niveau-là. Donc globalement satisfait. Puis aussi l'occasion de me remémorer que Messi est un artiste, que Sergio Ramos est très bon sur coup de pied arrêté de la tronche. Tout ceci, c'est du football. J'ai la passion et la passion, elle est pas démenti grâce à ce tournoi qui, je l'espère, va perdurer, parce que je suis certain que quand il va venir en Europe, tout le monde va être content, et ça sera aussi l'occasion de couper court à ces velléités d'une ligue fermée en Europe. Moi, je crains ceci, et je pense que c'est la bonne opportunité, ce championnat du monde des clubs, de pas voir naître un jour le championnat d'Europe ou du monde des nantis. Voilà.
Ok, Marc va venir à ton secours dans quelques instants, mais je sens que le camp du non a déjà envie de réagir. Julien Beneteau.
Je suis pas d'accord avec Pascal sur le fait que les journalistes européens ont déjà décidé que cette compétition n'était pas bonne. Au contraire, je trouve que les journalistes européens, et notamment ici RMC, suivent et pas glorifient cette compétition, mais
lui donne de l'importance.
Ouais, donne de l'importance énormément à cette compétition au détriment des journalistes, notamment nord-américains, parce que en ce moment, qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis? Le football, je sais pas pourquoi ça prend pas trop. Les États-Unis, au mois de juin, c'est la saison régulière de baseball, c'est le match 7 de la NBA, et dans un mois, il y a les camps d'entraînement de NFL qui vont reprendre. Pour eux, c'est ça leur truc. Donc moi, la FIFA, s'ils ont fait une erreur majeure, c'est de mettre cette compétition. Alors oui, c'est en répétition par rapport à la Coupe du Monde de l'année prochaine, mais pour lancer une première fois cette compétition dans un pays qui n'est pas
il fallait faire soit dans un pays sud-américain, c'est ce que tu nous dis, soit en Europe.
Exactement. Là, voilà. Et pour l'instant, moi, je suis pas rentré dedans parce que je connais pas la formule. Je sais pas combien il y a de clubs, les poules, ce que c'est. Les horaires des matchs, etc. Donc je suis pas rentré là-dedans. Mais pour que cette compétition s'installe, il va falloir plus de clarté. Et pour l'instant, pour moi, elle en a pas et ça manque d'intérêt quand même pour les clubs européens.
Marc Madiot.
Alors moi j'étais comme beaucoup d'entre nous plutôt éloigné de cette compétition, plutôt contre, et progressivement je pense que ça me titille et je commence à m'intéresser aux résultats, et je pense qu'au fil des tours je vais rentrer dans le truc, et surtout je pense qu'il y a un élément important, notamment pour le PSG, désolé Pascal, mais pour le PSG il faut pas louper le sens de l'histoire, et le fait d'être dans cette compétition et être parmi les favoris, je pense qu'il faut pas laisser passer ce titre s'ils peuvent le prendre, parce que c'est un titre qui, dans le temps qui arrive, les dizaines d'années qui arrivent, c'est un titre qui aura une grande importance. Première Coupe d'Europe de Ligue des Champions, le Real Madrid l'avait gagné, pas dans l'indifférence, mais c'était pas encore ce que représente aujourd'hui la Ligue des Champions. Et n'empêche que dans le palmarès du Real Madrid, les 4-5 premières éditions ont été remportées par le Real, et ça compte énormément dans le prestige du club. Et je pense qu'il y a un événement qui se déroule, qui va monter en pression, il faut pas le louper. Et c'est pour ça que moi, ça commence à m'intéresser, j'observe, je regarde, et j'espère que le PSG ira au bout du truc, comme il l'a fait sur la dernière Ligue des Champions.
Simon Dutin. Pas convaincu encore.
Voilà, pas convaincu. Évidemment, ça m'intéresse. On est dans une période où normalement il y a plus de foot. Ça a été évidemment créé pour combler ce manque, les années où il n'y a pas d'Euro, de Copa América ou alors de Coupe du Monde. Non, je dis que je suis pas emballé parce que je suis surtout très déçu parce que produisent les équipes européennes qui sont pas toutes dans le. C'était à prévoir, certes, mais il y a des équipes qui peuvent aller entre guillemets sauver leur saison avec ce trophée et être à jamais les premiers à l'emporter. Mais il y a des cas différents. Le Real, t'as l'impression que c'est un stage de pré-saison. Ils viennent de changer d'entraîneur. Xabi Alonso tente tu vois, de mettre en place ses principes, mais bon, bah, c'est compliqué, du coup, c'est pas exceptionnel. Le PSG, t'as l'impression que c'est au contraire la tournée triomphale après la Ligue des Champions, qui sont vraiment en représentation. L'Inter, ils sont en thérapie. L'Atlético, quand tu vois leur match, t'as l'impression qu'ils, je pense qu'ils s'attendaient à atterrir à Cancun et pour les vacances. Il y a le côté chaud à l'américaine, tu sais, les présentations, les joueurs qui rentrent un par un, comme à la boxe ou tu vois à Las Vegas. Je trouve que c'est un peu too much. J'ai l'impression qu'en effet, la Ligue américaine joue beaucoup là-dedans et compte beaucoup là-dessus pour qu'il y ait des répercussions positives pour l'engouement sur pour le soccer. Donc non, je suis pas convaincu. Et en revanche, très agréablement surpris, charmé par ce que produisent les équipes sud-américaines qui partant, je pense, d'un petit complexe d'infériorité ou tu vois pour lutter contre une sorte de condescendance européenne, se rebellent et ont des résultats et eux jouent des matchs qui ressemblent à ce que tu peux voir en Copa Libertadores parfois, tu vois la fameuse grinta, la garra, tu vois les Européens, ils sont surpris, ils se font bousculer, ils se font secouer et ça me plaît de voir que les Sudam sont là pour dire bon écoutez les gars, nous aussi on sait jouer au foot, vous nous prenez pour des pimpins. Il y a beaucoup de revanchards, on a vu Jorginho à Flamengo.
Ouais, puis je pense qu'il y a un autre phénomène, les Sud-Américains, c'est une opportunité, une occasion pour eux de se mettre en évidence et attirer un contrat potentiel pour eux en Europe.
Peut-être, mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait vivre une compétition?
Comment
est-ce que c'est comme ça qu'on fait vivre une compétition? Parce que il y a aussi l'équité.
Ça rentre en ligne de compte. Un Sud-Américain de Botafogo, s'il sort des grands matchs dans cette Coupe du Monde, il se met en évidence. Même si aujourd'hui les moyens de détection sont extrêmement nombreux, il n'empêche que le mec qui joue pour un club sud-américain dans cette compétition, il a tout intérêt à être performant parce que ça peut déboucher sur un beau contrat en Europe.
Attendons les phases finales, c'est ça aussi.
Il va falloir quand même affiner.
On est sur des phases de poules.
Je pense qu'il va falloir affiner le processus.
Vous voulez qu'il soit performant tout de suite
et de qualification quand même. Je trouve que le champ d'équipe est trop vaste. On comprend pas. On sait pas ce que certains clubs européens fichent là. On se demande pourquoi certains ne sont pas là. Le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, il est pas là. Mais bon, enfin, on a un petit peu de mal à comprendre. On a quand même l'impression, quand on connaît un peu l'oiseau Infantino, que le but, c'est quand même de rassurer les sponsors. Il y aura de l'argent à faire, même les années où il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'Euro. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est là. Bon, je pense qu'il faudrait valoriser un petit peu plus et affiner, encore une fois, les processus de sélection, de qualification pour cette compétition.
Il y avait une année où son compte en banque du Qatar n'était pas assez rempli. Donc, effectivement, il a trouvé ça, Infantino. Faut pas se leurrer.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça...
On va le blâmer pour ça. Mais en fait, vous êtes tous des philanthropes, si je vous écoute.
Non, mais bon.
Dans vos sports respectifs, ça existe pas la notion du pognon?
Bien sûr que
il aurait tort de pas le faire.
Ça existe dans nos sports, on aimerait.
Non, mais il aurait tort de pas le faire. Mais si t'étais un sport, mis en lumière, le sport numéro un, celui qui vampirise tout, t'en profiterais pas? Donc il a raison de le faire. Donc ça, c'est pas un argument pour moi. Je suis désolé, c'est pas un argument. Maintenant, l'argument, c'est de dire que le premier tour, c'est pas si mal que ça. Que quand on regarde une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, les matchs du premier tour, ils sont pas toujours géniaux. Et qu'il va y avoir les huitièmes de finale. Et que moi, j'attends de voir ces équipes sud-américaines confrontées aux équipes européennes avec des clubs comme le Paris Saint-Germain qui a une carte à jouer, à être le premier. Autrement, fallait envoyer Marseille pour le premier. Il aurait gagné la compétition.
Non mais Pascal, t'as pas été un peu affligé parce que t'as vu genre Chelsea, c'est honteux ce qu'ils ont proposé contre Flamengo.
Ouais, mais
enfin c'est quand même.
Est-ce que quand tu regardes le championnat d'Angleterre par exemple en pleine saison, franchement Simon, toi qui es quelqu'un de très objectif, écoute, quand tu regardes le Chelsea jouer en championnat d'Angleterre contre Manchester City par exemple, t'assistes toujours à un grand match? C'est pas toujours sur commande, je suis désolé.
Quand même, ils sont en vacances en promenade, quand même. Bon.
Mais certes, ils sont mis en vacances, mis en préparation, parce que justement, c'est coincé au bout d'une saison. Les joueurs sont principalement rincés. Ouais. Ça permet au coach de faire quand même quelques essais, de faire tourner. Neutre tout ça.
Oui, mais si c'est important pour un club, tu fais pas tourner, tu mets la meilleure équipe. Et on va en venir quoi?
Ça va venir.
Les joueurs de foot européens. enfin les joueurs de foot des clubs européens vont devenir comme les tennisman avec zéro coupure, zéro intersaison au fur et à mesure des années. Et moi je pense que ça va être terrible pour alors ils vont être
acceptons l'augure que c'est logique aujourd'hui qu'on joue davantage dans quel que soit le sport, parce qu'aujourd'hui les athlètes sont beaucoup mieux préparés qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. C'est normal qu'ils jouent plus, ils sont mieux préparés quand même, et ils gagnent de plus en plus. Vous voudriez pas qu'ils s'arrêtent, non? Toute l'année?
Non, c'est normal. 6 mois, ça serait bien pour eux tout de même. En tout cas,
60 matchs ou 70 matchs pour le PSG, pour celui qui joue tout. Prenez l'effectif du Paris Saint-Germain et dites-moi qui a fait 60 et 70 matchs. Donc ça a tourné, ça tourne malgré tout. Il y a les temps de jeu qui sont équilibrés parce que les entraîneurs, dans quel que soit le sport, ils sont de très très bon niveau.
En tout
parce
cas,
qu'ils ont des battes. Donc cette Coupe du Monde, elle a lieu d'être, elle a le mérite d'exister. Attendons, à mon avis, le deuxième tour pour s'enthousiasmer un peu plus.
Pour s'emballer pour les huitièmes de finale, on a besoin évidemment qu'un club français soit présent, et en l'occurrence le Paris Saint-Germain. Arthur Perrault, quelques dernières informations, toi qui es à Seattle, quelques dernières informations du PSG. Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'on a des nouvelles, notamment d'Ousmane Dembélé?
Oui, Ousmane Dembélé qui a participé à la quasi-intégralité de la dernière séance d'entraînement. Vraiment, le staff médical est au petit soin avec l'attaquant parisien. Aucun risque ne sera pris en vue de la rencontre programmée demain à 21h heure française face aux Sounders de Seattle pour cette dernière journée de la phase de poule et en l'occurrence du groupe B pour le PSG. Le programme va s'accélérer considérablement. Les Parisiens qui vont s'entraîner une dernière fois à Los Angeles cet après-midi heure française avant de venir ici à Seattle avec des activités médias, dont une conférence de presse en plein milieu de la nuit de Luis Enrique, et puis ensuite voilà la préparation tranquillement avant le match, ce dernier match face aux Sounders de Seattle. Ce sera à 21h heure française lundi soir.
Merci beaucoup Arthur Perrault, on te retrouve sur RMC Sport évidemment pour toutes les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain. Allez, il est 10h27, vous voulez le résultat du sondage? Parce que bon, on était parti le camp du oui a gagné un petit pourcentage. Bravo, on termine la clôture, on clôt, hein, on peut le dire là. La consultation à 85-15, est-ce que vous êtes emballé? 15% oui, 85% non. On va attendre un petit peu, on refera un petit bilan la semaine prochaine.
Bah ouais.
Comme ça on saura où vous en êtes, on espère faire grimper un petit peu le curseur. On se retrouve dans quelques instants pour un débat passionnant, il concerne Arthur Fils qui a déclaré forfait hier pour Wimbledon, lui qui connaît des blessures à répétition. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite de sa carrière? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Simon Dutin, Pascal Duprat, Julien Beneteau, Marc Madio, ce matin les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi. À partir de 11h, on ouvrira le dossier Pogacar. Manque-t-il d'humilité? Je sais que la phrase de Marc Madio hier, son passage dans les grandes gueules du sport, a été repris partout où tu disais attention, attention. Il joue avec le feu. Eh bien, on va en parler justement dans cette émission. Je sais que ça te tient à cœur, mon cher Marc. C'est un débat sur mesure pour toi, mais également pour les GG qui ont travaillé leur sujet. Ça, ce sera à partir de 11h.
RMC, le dossier des GG.
Alors Arthur Fils renonce au gazon. Hier, le numéro 1 français a officiellement déclaré forfait pour Wimbledon. Un coup dur évidemment pour lui, mais malheureusement pas une surprise. Arthur Fils n'a plus joué depuis son retrait du troisième tour de Roland en raison d'une fracture de fatigue au dos. Une année un peu pourrie en grand chelem pour le 15e joueur mondial qui avait dû également abandonner au troisième tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. On retrouve notre spécialiste tennis qui a un doctorat en dos, Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Pas facile d'ailleurs d'avoir un doctorat en dos.
Non, c'est pas facile, mais je crois que je l'ai pas ce doctorat.
Tu l'as pas?
Non.
Ah, c'était sur Wikipédia, non? Tu l'as pas? Donc.
Ni aucun autre. L3, L5, j'avoue que ça, c'est assez vague, mais.
Non, ça c'est pour la musique, ça.
Ah non,
les
L5. C'est les lombaires, c'est là.
C'est L5, hein, il l'a pas.
L5, ouais.
Non, c'était pour faire un peu d'humour, mais ouais, je sens que t'es pas réceptif, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est un. Revenons aux choses sérieuses, Eric. C'est un problème récurrent pour Arthur Fils.
Non, c'est vrai, tu as raison. En 2025, Arthur Fils n'a pas fini un grand chelem en bonne santé. C'est aussi simple que ça, et c'est ça qui est frustrant. À Melbourne, problème au cinquième métatarse, résultant d'un strap trop serré. Ça avait contraint à l'abandon au troisième tour contre Hugo Humbert, on s'en souvient. Et à Roland-Garros, donc c'est tout frais. Fracture de fatigue au bas du dos, donc L3, L5, qu'il est obligé à jeter l'éponge après un deuxième tour très douloureux face à Jaume Munar, l'Espagnol. Et donc le 31 mai, en conférence de presse, le tricolore dressait un bilan de santé un poil inquiétant.
Ça m'est déjà arrivé deux fois, j'ai dû porter un corset. Ensuite, tout s'était bien reconsolidé, mais après, j'ai un corps aussi, je crois que je suis assez cambré, donc ça aide pas trop.
J'ai le corps cambré. Excusez-moi, je vais m'attarder sur ce détail morphologique.
Ah, tu vois, t'as un doctorat...
Je vois quand Julien me regarde bizarrement. Non, parce que... Et là, c'est là que la présence de Julien va être intéressante. Je trouve qu'il y a des similitudes entre Arthur Fils et Joe Wilfried-Tsonga au niveau du gabarit. Joe était 3 cm plus grand, certes, mais il avait des cuisses extrêmement puissantes, l'héritage paternel. Joe a connu de sérieux problèmes dans sa jeunesse, notamment une hernie discale, et sa fragilité tout au long de sa carrière s'est traduite par des chiffres implacables, 10 grands chelems ratés et 5 abandons, toujours en grands chelems. J'espère que Arthur Fils ne connaîtra pas les mêmes problèmes physiques que Joe Wilfried-Tsonga, sinon ça va freiner sa progression.
Tu restes avec nous pour ce débat, on se pose des questions évidemment après ce nouveau forfait, on se pose des questions sur Arthur Fils. Julien, je viens te voir tout de suite, est-ce que c'est inquiétant pour la suite de sa carrière ?
Non, moi je pense pas. Eric a fait une comparaison avec Joe. Ok, il y a eu beaucoup d'abandons ou de blessures dans la carrière de Joe, mais ça l'a pas empêché de faire une énorme carrière et de briller en grand chelem avec des demi-finales. Premièrement, la blessure et l'abandon de l'Open d'Australie, c'est une conséquence de quelque chose, mais c'est pas son corps qui lâche comme là à Roland Garros, donc c'est à prendre en compte. Qu'est-ce que je voulais dire sur le gabarit? Je pense que Joe Tsonga par rapport à Arthur était aussi peut-être un peu plus lourd, plus grand. Un peu plus de poids, Arthur non. Et puis il y a des joueurs qui ont ces morphologies-là. Il a dit qu'il était cambré. Je pense à James Blake, l'ancien joueur américain, qui lui était complètement cambré et avait aussi une scoliose ou quelque chose comme ça. Et ça l'a pas empêché de faire une belle carrière et de jouer. Et Arthur, il a que 21 ans. C'est un gros bosseur. Il est très bien entouré aussi au niveau médical, mais au niveau aussi préparation physique. Donc pour l'instant, moi, je suis pas du tout inquiet pour la suite de sa carrière.
Et toi, ça t'inquiète pas qu'il soit souvent à l'arrêt comme ça ?
Non, parce
c'est pour
que
le préserver, c'est plutôt le contraire.
Roland Garros, il y a eu cette fracture de fatigue. Donc il prend le temps. Justement, il n'est pas allé courir les tournois sur le gazon. Il savait que ça allait être trop dur. Il renonce à Wimbledon. Ça doit lui faire mal mentalement.
Huitième de finale l'année dernière à Wimbledon.
Voilà. Mais justement, je pense qu'il prend le temps parce qu'il sait que c'est à ce moment-là de sa carrière qu'il faut qu'il prenne le temps, qu'il consolide et qu'il se renforce. Peut-être qu'il va pas jouer 50 tournois du Grand Chelem de suite. Peut-être qu'il va en louper un ou deux de temps en temps, comme l'a fait Joe Tsonga, comme l'a fait Gilles Simon, comme l'a fait Gaël Monfils. Mais ça l'empêchera pas d'être performant et d'avoir une belle carrière.
Ok, on n'est pas inquiet. Est-ce que quelqu'un est inquiet autour de la table dans le studio RMC, Marc?
Je suis un petit peu inquiet parce que il est jeune. Et là, on remémore quand même quelques difficultés rencontrées depuis un certain temps. Donc, c'est quand même jamais très encourageant et très porteur pour la suite d'avoir ce style de soucis aussi jeune dans sa carrière. Et alors, être 31 ou 32 ans et les blessures auxquelles vous faites référence, je dirais, c'est dans la logique des choses et dans la logique du temps. Mais là, il a 21 ans, donc c'est pour le moins, on peut se poser des questions et s'interroger. Voilà, moi, je suis un peu là-dessus.
Pascal Duprat.
Moi, j'ai une lecture complètement différente de Marc, à savoir, s'il est 15e joueur mondial aujourd'hui, il va bien sûr reculer dans le classement du fait de sa défection à Wimbledon. S'il est 15e, c'est qu'il a performé. Ça, à 21
oui,
ans.
Oui, mais ça, d'accord.
Donc, il a gagné quelques matchs, ouais. Donc il a fait quelques apparitions. Il était quand même souvent sur les courts. Et il se trouve qu'il est blessé. Une blessure qui, apparemment, se renouvelle et récurrente. Donc, je trouve qu'il est plutôt sage de s'arrêter, de se soigner, de se renforcer.
Ça, on est d'accord.
Et de revenir ensuite, parce que rien ne dit que cette blessure, elle va le suivre tout au long de sa carrière. Donc, Donc c'est mieux d'être patient. Et il me semble que son entourage fait le bon choix que d'être patient, de zapper Wimbledon et de le retrouver à l'US Open. Voilà, c'est une lecture complètement différente. Donc pour moi, c'est pas comment dire, on n'est pas en train de dire que sa carrière va être foutue à cause de ce problème au dos.
Non, mais je dis pas ça non plus. Hein, mais il y a source d'inquiétude.
Je le lis comme ça. C'est la blessure fait partie du monde du sportif et beaucoup de sportifs blessés se sont souvent relevés pour devenir d'extraordinaires champions. Les exemples sont nombreux.
Pour revenir sur le parallèle qu'a fait Eric avec Joe Tsonga, le seul truc qui peut être inquiétant, c'est que ça crée des déséquilibres ailleurs. Joe, dans sa carrière, en fait, il a eu une hernie discale, mais après, son dos l'a laissé tranquille. C'est les genoux qu'on...
Les genoux, le psoas aussi.
Il a eu beaucoup de blessures aux genoux, aux tendons, etc., aux genoux. Donc, c'est là où Arthur, avec son équipe, doit vraiment prendre le temps, comme l'a dit Pascal, pour harmoniser son corps. En lien avec sa morphologie, avec cette cambrure, avec cette puissance qu'il a de par son gabarit, pour pouvoir durer et se jeter dans cette carrière qu'il attend, où il va pendant des années pouvoir évoluer au plus haut niveau.
Avant d'écouter Simon Dutin, je vous propose d'écouter de nouveau Arthur Fils. C'était donc durant cette conférence de presse donnée à Roland Garros, à lui qui avait donc déclaré forfait. Il avait demandé à tous les journalistes de se rassembler dans la salle de conférence de presse pour expliquer son souci. Arthur Fils.
Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas pressé. J'ai que 20 ans, j'ai encore du temps sur le circuit, c'est pas le moment où il faut que je me presse. Non, au contraire, si je peux prendre un peu plus de temps pour bien récupérer et être prêt à jouer la saison sur dur et toute la fin d'année, c'est pas plus mal.
Ok, il est raisonnable, hein, c'est ce qu'on entend en tout cas, et peut-être lucide aussi, d'Arthur Fils. Simon Dutin.
Se demander si une blessure freine ta progression, c'est un peu la palissade, hein, par définition, quand t'es au stand, t'avances pas, mais en effet, Eric a rappelé quand même, le début de carrière, l'altitude qu'il a déjà atteinte à un si jeune âge, il le dit lui-même, d'ailleurs, voilà, ça lui donne le confort, la liberté de prendre le temps de se soigner plutôt que d'accélérer son retour si jamais il avait beaucoup de points à aller chercher, si il était en retard sur ses temps de passage. Moi, j'ai envie de croire que bon, il a un gabarit en effet et un jeu énergivore, un jeu peut-être trop un petit peu traumatisant pour des articulations, mais ça c'est le cas du tennis moderne. Moi, je veux pas croire que à 21 ans, même si t'es blessé un peu plus fréquemment que ce que tu espérais, tu doives dire au revoir à tes rêves de carrière. Et puis le tennis, Eric a donné quelques exemples avec Tsonga, mais Djokovic, il a même failli arrêter à une époque pour des douleurs au coude. Alors il avait déjà quand même accompli beaucoup de choses, mais Sinner a eu beaucoup de blessures avant quand même d'être un peu tranquille et de commencer à remporter des grands chelems. Et puis dans d'autres sports, tu vois, en NBA, Joel Embiid, qui était annoncé comme le phénomène, il a dû, pareil, rester au frigo pendant un an avant de commencer à jouer. Stephen Curry, avant de devenir la superstar qu'il a été, il a eu des énormes entorses à la cheville, il a failli être coupé par son club. En foot, Kaka, qui s'était brisé une vertèbre à 18 ans, lui disait qu'il ne jouerait plus jamais au foot, il est devenu ballon d'or. Donc,
tu vas nous faire tous les joueurs blessés, écoute, là.
Excuse-moi, on a le droit de bosser un peu pour répondre à tes questions. Je pense que Arthur Fils, il est dans ses temps de passage, et comme il le dit, il a ce confort, cette liberté de pouvoir prendre le temps de se soigner et de faire des protocoles de soins complet et sans se précipiter.
Pascal a raison, t'as pas un autre exemple à donner?
Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai du Marco Reus en Allemagne également, qui a arrêté sa carrière à 22 ans. Ouais.
Eric, conséquence directe, il devrait sortir du top 20 parce qu'il va pas marquer de points durant Wimbledon.
Oui, d'après mes petits calculs, il va sortir du top 20. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les points de Wimbledon qui vont sauter. Il avait gagné le tour de Hambourg l'an passé, c'était 500 points. Donc il va perdre 700 points. Donc quand il va reprendre sur le circuit, à mon avis, il sera en dehors du top 20.
Mais il sera toujours tête de série à l'US Open.
Oui.
Ça va.
Mais c'est toujours embêtant, t'es moins protégé dans les tirages, on va dire.
Ok, dans le milieu du tennis, toi Eric, quand on voit Arthur Fils qui abandonne à Roland-Garros, quand on voit qu'il fait forfait pour Wimbledon, est-ce que quand même il y a une petite musique, il y a quand même quelque chose où on se dit tiens, on tient le nouveau porte-drapeau français, mais on n'est pas sûr.
Non, mais c'est un coup de frein. On peut pas le nier. C'est un coup de frein. Déjà, son abandon à Melbourne avait été assez bizarre parce que il nous avait expliqué qu'il pouvait pas porter de strap, qu'il refusait aussi les chevillères.
Ouais.
On avait été un peu surpris par le ton de sa conférence de presse. Bon, visiblement, il a réglé ce problème. Mais c'est vrai que ça remonte à l'enfance, puisque quand il a intégré le CNE, il avait déjà un corset. Donc, c'est récurrent. Et Julien a raison, il faut vraiment qu'il trouve le bon protocole. Mais je pense qu'à la Fédé, ils ont des compétences. Il faut vraiment qu'il trouve le bon protocole. Peut-être appeler Joe, parce que Joe aussi a eu des soucis au niveau du dos. Donc, faut surtout pas se précipiter, parce que là, tu peux te faire très mal. Il nous l'a dit à Roland, si j'avais joué mon troisième tour contre Roublev, je risquais d'être out pour 6 mois. Donc, il a fait le choix de la raison et on espère le retrouver à l'US en pleine forme.
Julien,
c'est un coup de frein dans son ascension parce que il a 21 ans, 20e mondial, au 15e mondial pardon. Il est très très bien parti. Il est dans une génération où il peut très vite se retrouver dans le top 10. Arthur.
Oui, mais on sait aussi que dans le tennis, le train n'attend pas forcément.
Ça avance bien devant.
Déjà dès l'US Open, on espérait qu'il fasse 8e quart de finale. Pareil à Roland.
Ça avance très vite au sommet. Entre 5 et 15, ça avance moins vite qu'avant. Donc et Arthur, il a les armes tennistiques et physiques malgré ses blessures pour aller chercher ça.
Et est-ce que son jeu n'est pas trop physique?
T'as vu ce qu'ils font les autres?
Oui, bah là c'est ça
devient tout.
Non mais je trouve qu'il y a peut-être une fluidité qui est différente chez les top players. Arthur, en tant que c'est à l'arrache, quoi.
C'est ouais. Ça
que
tu veux dire. C'est ce que je disais, donc traumatisant. Ouais,
mais il est très. Moi, je trouve qu'il dégage une la énergie physique, je vois, une puissance, exactement, une puissance incroyable, que c'est sa force. Et forcément, il a besoin d'avoir une préparation physique optimale, avec un corps qui répond présent. Dans l'interview qu'on a entendu, pour un gamin de 20 ans, je trouve qu'il est vachement mature par rapport à la suite de sa carrière, en disant ok, c'est pas grave si je loupe Wimbledon aujourd'hui, parce que je vais pouvoir jouer sur dur et que il faut que je me construise. Et ça, c'est très intelligent de sa part.
Bon, on souhaite un bon rétablissement évidemment à Arthur Fils et on espère le revoir très vite et notamment à l'US Open pour enfin briller cette saison dans un grand chelem, dans un tournoi du grand chelem. Merci Eric Salio d'avoir été avec nous ce matin. Sachez que dans quelques instants, ce sont les GG contre-attaque. Vous avez proposé il y a une bonne demi-heure maintenant, 4 sujets. Alors il y en a un qui est à la ramasse, je dis pas lequel.
Mais c'est moi.
Mais laisse un peu de surprise, Simon, voyons. Mais il y en a 3. C'est extrêmement serré. J'ai un 29%, 28%, 27%. Il reste 1 minute pour voter et ensuite on se retrouve dans 1 minute pour les GG contre-attaque. À tout de suite.
Ouais, réveillez-vous!
RMC jusqu'à midi.
Ah, mais moi, quand j'écoute Christophe Tessieux, je sais même pas si on va jouer la finale. Je pense qu'on va déclarer.
Les grandes gueules du sport.
Je raccroche, j'appelle Hugo Moulin, j'y serai Ferrari.
Ça a été préparé en amont.
Tu as beaucoup parlé, tu t'es beaucoup exprimé. Moi, je vais juste te rappeler un truc.
Ah, tu es en train de me dire ferme ta quoi? Non mais Marc Mathieu me dit ferme quoi.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, c'était ce matin dans les grandes gueules. Précipitez-vous sur le podcast. Un débat très animé autour de la finale du top 14 samedi soir prochain au Stade de France entre le Stade Toulousain et l'UBB. Notre question c'était qui a l'ascendant? Bon, on a vu que sur ce débat, à un moment donné, Marc a voulu prendre l'ascendant sur Pascal Dupraz. N'hésitez pas à aller réécouter ça en podcast dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Avec nous ce matin, Julien Benneteau, Simon Dutin et donc évidemment le duo Tic-Tac, Pascal Dupraz et Marc Madiou en l'absence de Christophe Cessieux. Sachez qu'à partir de 11h, on parlera de Tadej Pogacar, manque-t-il d'humidité? Restez bien avec nous. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC, les GG contre-attaque.
Alors les grandes gueules, vous avez fait 4 propositions de débat ce matin. Ça a été extrêmement serré sur le compte X des grandes gueules du sport. Serré, pas pour tout le monde, c'est vrai. Simon Dutin, dernière place. Désiré Doué est la star du Paris Saint-Germain, 16%.
Contrat rempli, on n'a pas gagné.
Bravo, Simon, en tout cas. C'est vrai que c'était du recyclage.
Non, le vrai contrat rempli, c'est de ne pas finir dernier, mais de ne pas gagner non plus.
Mais bon, là, c'est dernier. Voilà, 16%. 27%. Il était en finale. Ça s'est pas passé à grand chose. 27% pour la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Julien Beneteau, troisième place.
Je progresse, je m'accroche. C'est pas
mais c'est
ma
bien.
Spécialité, les contre-attaques, mais je
franchement,
travaille,
27%, progresse. C'est bien.
Voilà.
28% pour Paul Pogba en équipe de France. Calmez-vous. Est-ce qu'on ferait pareil avec un coureur cycliste? Calmez-vous. C'était la proposition de Marc Madiot, 28%. Ça en est fallu de peu, Marc.
Eh ouais. Eh ouais, mais comme quoi le foot, ça marche toujours.
Oui,
mais je retourne à Briançon.
Regarde, c'est bien marché pour Simon.
Vous avez vu les deux sujets foot, ouais, vous êtes médisant. Non, ça ne marche pas tout le temps parce que il a gagné avec 29%. La Vasque à Paris est de retour. Elle s'est envolée.
Il
de
a pas
nouveau
eu illicite de
hier.
Christophe Cessieux par hasard?
Non, pas du tout.
Voilà, ça risque pas qu'il vote pour moi. Tout de suite, hein.
22h13 au jardin des Tuileries, la Vasque qui a fait son retour dans le ciel de Paris. Elle sera là jusqu'au 14 septembre prochain. Nous allons de la fête de la musique à la fête du sport. Ok, les amis, donc vous pouvez l'admirer évidemment, mais Pascal, tu voulais nous en parler ce matin.
Oui, c'est un brin provocateur. Je vais titiller mes collègues. J'ai besoin de savoir ce qu'ils en pensent. Je vais vous donner mes arguments. Donc, comme tu l'as dit, la Vasque est de retour depuis hier, sous l'air d'une chanson de Daniel Balavoine, Sauver l'amour, revisité, bien entendu. La voici donc de retour et j'apprends qu'elle est là jusqu'au 14 septembre, mais aussi qu'elle reviendra jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est-à-dire qu'on se paiera la Vasque. Et c'est pas un vain mot. On se paiera la Vasque, pardon, pendant 3 ans. Coût de l'opération pour les nostalgiques, 10 millions d'euros. Eh bien, moi, je me dis, prix sur les excédents et les bénéfices des Jeux Olympiques, la réussite suprême de la France, j'en conviens. J'aimerais vous poser la question, donc. Est-ce génial ou too much? Pour ma part, c'est too much et ces 10 plaques, on aurait pu les utiliser autrement, pour l'handisport par exemple, pour les équipements, parce que celui qui me dit que les équipements en France ne sont pas obsolètes bien souvent, eh bien, il se moque de moi. Donc ces 10 plaques, j'aurais bien voulu qu'on les économise. Alors ça fait du bien peut-être à chacun d'entre nous de voir et de se remémorer que les Jeux Olympiques étaient extraordinaires. Mais une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on les a vécus, on pourrait pas passer à autre chose, être davantage efficient dans ce pays.
Okay.
Voilà ma question, mes
c'est
amis.
L'édito de Pascal Duprat. Pour lui, c'est too much, le retour de la Vasque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te voyais faire la moue, Simon Dutin.
Oui, je pense qu'il y a d'autres exemples de gabegie financière qui dépassent le montant avancé par Pascal, que moi j'ai pas eu l'occasion de vérifier. Je pense que, je sais pas, ça fait plaisir aux gens, ça rend les gens heureux. Moi, j'ai la chance d'habiter assez haut pour la voir s'élever dans le ciel de Paris, et je vous cache pas que je l'ai vue hier soir avec beaucoup d'émotion. Ça m'a rappelé tous ces bons souvenirs d'hier. On parle souvent à tort et à travers de l'héritage des Jeux. Il y a un côté mythe, légende autour de tout ça. Je pense que il est même plus question des Jeux Olympiques. Ça rappelle simplement des bons souvenirs. Je pense que c'est attaché à l'image que Paris a renvoyée au monde. C'est un exemple de à l'heure où on parle beaucoup de transformation énergétique, voilà, c'est un exemple de modernité, voilà, tout simplement. Et je vois pas pourquoi on n'irait pas les faire ailleurs, ces économies, parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui servent à rien, en tout cas qui font pas plaisir aux gens. Celle-ci, elle apporte du bonheur aux gens, et puis elle crée aussi de la richesse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion de l'admirer l'été dernier et qui vont venir à Paris exprès pour ça.
Ça, c'est vrai. Pour toi, c'est pas too much. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis partagé. Ce que tu évoques est intéressant. Le fait de se remémorer qu'il y a eu les Jeux avec la Vasque, c'est bien. Moi, j'irai au-delà des 4 ans. On dit jusqu'au prochain JO. Pourquoi? Jusqu'au prochain JO, on a payé suffisamment cher l'organisation des Jeux pour pouvoir se permettre, si on en a les moyens, de faire perdurer dans le temps. Moi, à l'image de la Tour Eiffel, ça pourrait durer des dizaines, des centaines d'années.
Après, on passe pour être un pays très très riche, hein,
oui,
économiquement, on est costaud.
Et là,
c'est pas ce que c'est que les économies.
C'est là où je te rejoins. C'est là où je te rejoins. Parallèlement à cela, 10 plaques, ça fait beaucoup. Ça fait trop.
Le président a tweeté hier que c'était 2,5 millions par année, mais apparemment les chiffres annoncés c'est 10 millions.
Ah, si c'est 10 millions, c'est trop et il faut s'en priver.
Bah, 2,5 millions x 3, ça fait quand même 7,5 millions.
Ouais.
pour encore une fois la photo que tu m'as envoyée, Simon, hier, elle est magnifique.
Ouais, hein, sublime,
je
sublime.
Sublime, bravo.
Ouais, mais il habite sur le toit du Georges V aussi. Alors,
ah oui,
il faut peut-être les faire là, les économies, les amis.
Peut-être.
Julien Benneteau.
Non, pour moi c'est pas too much. C'est un symbole d'une réussite de ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, je serais pour qu'elle soit là tous les étés, parce que c'est magnifique, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la voir, parce que ça peut faire partie d'un symbole qui dure de Paris. Et que on parle de l'héritage des Jeux Olympiques d'une certaine manière, et c'était une vraie volonté de la part du comité d'organisation, et je trouve que ce
l'héritage symbole, chez les athlètes, ce
symbole est un magnifique héritage, une magnifique idée de la part du comité d'organisation, et que faire perdurer et mettre en avant les brillantes idées qu'on peut avoir dans ce pays, eh ben on les met à l'honneur. Et puis 2,5 millions, si c'est 2,5 millions d'euros par an, parce que x3, donc ça fait 7,5, ou x4, ça fait 10, 2,5 millions d'euros par an, je pense que l'État français peut s'en remettre.
Ah ouais?
Je pense aussi, ah, ouais, en effet.
Ouais, ok. Ouais, c'est bien, les gars. Ouais, bravo. Ça creuse un peu plus la dette, hein, mais bon, c'est pas grave, en fait.
Non, mais moi, je veux bien, à ce moment-là, on peut parler du passe culture.
Non, mais on pourrait parler. Non, mais
c'est pas l'objet. Acheter des jeux vidéo plutôt que d'aller.
Non, mais c'est pas l'objet. Mais moi, je serais curieux de savoir combien de fois vous allez jusqu'au mois de septembre vous mettre en lévitation devant cette vasque. Combien de fois? Soyez sérieux, les enfants. Est-ce que vous allez spécialement aller? Oui, mais est-ce que vous allez au Jardin des Tuileries, hein,
je vais y aller, moi, je compte bien y aller.
Vous allez y aller, mais combien de fois jusqu'au 14 septembre à regarder, là, ça me remémore les Jeux Olympiques. Bon, moi, tu sais quoi, ce que j'aimerais, c'est que tous les Paralympiques, ils soient certains qu'ils puissent accéder à tout, comment dire, les services publics, qu'ils puissent avoir des moyens pour s'entraîner encore mieux, pour nous faire rêver encore plus. Voilà, je me dis que ça pourrait être... Alors, c'est fait, attention, hein. Mais j'aimerais que ça se fasse davantage, qu'on concentre davantage.
C'est pas l'intégralité de l'excédent dégagé par...
C'est bien ce que j'ai dit.
Voilà, il reste de l'argent qu'on peut utiliser pour d'autres projets.
Ok, les amis.
Si tu le dis, oui.
En tout cas, c'était un bon débat proposé par Pascal, parce que c'est un débat forcément dans l'air du temps, avec de nouveau l'apparition de cette vasque olympique. Si vous voulez l'admirer, vous aurez un petit peu de temps, évidemment, chers auditeurs, pour vous rendre à Paris et aller la voir, parce que il faut bien le dire, ça reste sublime à voir. Pour le coup, ça reste sublime à voir. Alors, c'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, ça prenait encore plus son sens, forcément, la vasque olympique. Aujourd'hui, non pas c'est désuet, mais certains sont passés à autre chose, comme Pascal. Mais c'est vrai que c'est quand même un moment de communion assez particulier. Et bientôt, il y aura la baignade dans la Seine aussi, hein, les amis, début juillet.
Bien sûr.
Ça y est, il y aura 3 lieux de baignade dans la Seine. On pourra de nouveau y aller.
Tout ça va suffire à sauver l'amour, tu penses?
Je sais pas, mais Balavoine le disait si bien, lui. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de Tadej Pogacar. Je pense que ça va être chaud dans le studio RMC. Le champion slovène manque-t-il d'humilité? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.